Le matin, mon cadran est assez cahuté. Pendant le déjeuner, j'écoute ses cahutés. En me rendant au travail, j'écoute ses cahutés.
Pourquoi quelques yeux clairs veulent tout clair?
Au travail, on écoute tous ses cahutés. Pendant que je prépare le souper, c'est ses cahutés. Plus tard, pour relaxer, je syntonise ses cahutés. Et dans mon lit, j'écoute encore ses cahutés.
Ses cahutés! Ses cahutés!
Je capote sur toi.
Tout ça au 90.3 FM à Montréal.
Bonjour, donc je m'appelle Alexis Jobin-Théberge et je suis conseiller cadre au partenariat pour le Programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile, aussi connu sous le sigle PRAIDA. Aujourd'hui, en fait, je vais venir vous parler des demandeurs d'asile. Je vais vous parler de la définition du demandeur d'asile. Aussi également les différents endroits où on peut demander l'asile. Je vais aussi vous parler de l'entente sur les tiers pays sûrs. Donc, c'est une entente qui existe entre le Canada et les États-Unis. Puis, enfin, je vais tenter là, de sensibiliser le grand public aux traversées irrégulières qui se produisent à la frontière canado-américaine. Donc, le PRAIDA, c'est le Programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile. En fait, on a un mandat d'offrir des services psychosociaux et des soins de santé aux demandeurs d'asile qui sont présents dans la province du Québec. Donc, on a un mandat provincial, bien qu'on soit centralisé à Montréal. Par notre offre de services, on offre différents services aux demandeurs d'asile, notamment des services de psychosociaux, des services psychosociaux et aussi des services des soins de santé infirmiers. On collabore beaucoup avec des organismes communautaires et institutionnels pour favoriser l'accès aux soins de santé et services sociaux, mais aussi l'accès là, à d'autres services. Parmi l'offre de services du PRAIDA, on peut offrir l'hébergement temporaire à l'arrivée des demandeurs d'asile pour ceux et celles là, qui se qualifient selon les critères d'admissibilité. On a aussi un mandat auprès de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, puis c'est pour agir à titre de représentant désigné au sein de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour les mineurs non accompagnés notamment, mais aussi là, pour les personnes qui auraient une vulnérabilité puis qui ne seraient pas en mesure de comprendre la nature des procédures dans lesquelles ils se trouvent. Un autre mandat que le PRAIDA a, c'est auprès de la population réfugiée. Puis comme 13 autres cliniques au Québec, on offre le bilan de santé et le bilan de bien-être à la population réfugiée. Qu'est-ce qu'un demandeur d'asile? En fait, un demandeur d'asile est une personne qui, à son entrée au pays, donc au Canada, ou bien au cours d'un séjour temporaire, va demander la protection du Canada. En fait, il va demander la protection du Canada parce que dans son pays d'origine, il craint où il est persécuté pour différentes raisons. En fait, au Canada, c'est la Commission de l'immigration et du statut de réfugié qui évalue chaque demande afin de rendre une décision sur l'octroi ou non du statut de réfugié. C'est le gouvernement canadien qui accorde l'asile à certaines personnes qui se trouvent sur son territoire, puis ces personnes-là craignent la persécution ou ils seraient en danger si elles devaient retourner dans leur pays d'origine. D'où pourquoi ils présentent une demande d'asile au Canada.
Oui, je m'appelle Tindjou Germaine et je suis camerounaise. Je suis arrivée à Edmonton, pas à Montréal, en août 2020. J'ai demandé l'asile ici parce qu'à Edmonton, on ne parle que anglais. Or, je ne connais rien en anglais. En février, de 2017, ma fille aînée m'appelle. Elle me dit qu'on a envoyé son mari en détachement à Bamenda, là où il y a les sessionnistes. On m'appelle le 7 février 2017 qu'il est mort. Je prends encore la route pour rentrer au Cameroun. On a fait le deuil. On a fait le deuil. On a fait le deuil. On a fait ses obsèques et tout. J'ai pris ma fille. J'ai déménagé à Bouya parce que même à Bouya, ça n'allait pas. J'ai ramené ma fille à Douala. On a pris un appartement. On vivait ensemble. L'enfant, tout le temps, était persécuté par téléphone. Elle pleure. Je lui demande que Michael, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit que maman, là où je suis, je ne sais pas qui m'appelle tout le temps au téléphone et me menace. Je suis dépassée. J'ai dit à l'enfant que mais, il faut qu'on aille à la police. Il dit, maman, je pars à la police maintenant, je ne sais pas ce qu'on va me faire, je suis dépassée. L'enfant est sorti un jour. L'enfant en rentrant, la moto a cogné l'enfant. Elle avait les blessures partout. On était à la maison. Tout le temps, l'enfant avait peur de sortir. J'ai dit à l'enfant que comme tu ne veux pas sortir, allons au moins à la gendarmerie et tu dis ce qui ne va pas à la gendarmerie puisqu'on ne connaît pas qui te persécute comme ça. Il faut que tu ailles dire à la gendarmerie. L'enfant ne savait pas que quand il était à l'hôpital comme ça, les mêmes gens étaient en train de la suivre, de suivre tous ceux qui étaient aux cheveux de son mari. L'enfant sort maintenant en mai. Elle dit qu'elle va aller à l'installation d'une de ses amies. Comme l'enfant est parti, l'enfant n'est plus revenu. J'ai cherché l'enfant 2 jours successifs. C'est le 3e jour qu'on m'appelle, qu'on a trouvé une femme à côté dans dans la boue. Et qu'on l'a transportée, elle respire encore pour amener à l'hôpital. La radio parlait.
Toi-même as cherché?
Oui, j'ai annoncé même à la police, j'ai tous les papiers. La police a cherché, nous, on a cherché. C'est après 3 jours que la radio parlait. On a trouvé une femme au nom de... On appelait la famille qu'on retrouve cette femme à l'hôpital. Elle est à l'hôpital sur telle place. On est allé à l'hôpital. Je suis venue. L'enfant a rendu l'âme le 9 mai 2018 entre mes mains. Son frère qui était avec eux tous à Bamenda, tous étaient touchés. Son grand frère aussi sort un matin. On le trouve dans un mas de sang quelque part. On ne sait pas qui l'avait persécuté. Voilà comment ma boutique même, là où je me débrouillais, on est venu mettre le feu. Le feu a pris tout le marché. La boutique s'est brûlée. S'est brûlée. Ma fille a dit, maman, viens ici. Que maman ne reste plus là-bas, ne reste plus là-bas, pardon, ne reste plus là-bas. J'ai dit, je vais laisser l'orphelin à qui? Je vais laisser l'orphelin et l'orpheline à qui pour venir là-bas? L'enfant a dit que maman, pardon, viens, si c'est même n'importe comment, on va chercher comment on va faire pour qu'un jour ces enfants-là viennent. Viens, maman, pardon, ne reste pas là-bas. L'enfant de celle-ci qui est morte avec son mari, ils sont au pays. Voilà comment je me lève, je quitte. Je viens ici, je vois l'enfant déjà avec les charges qu'elle a au Cameroun. Elle s'occupe de... Elle a 4 enfants ici. Plus les autres, ses orphelins de père et de mère. Plus maintenant, mon fils même, qui a 16 enfants, que mon fils Il se cache seulement, il ne sort même pas, ayant peur qu'on peut continuer à le menacer. Puis lui et son enfant, toute la charge est sur celle-là qui reste toute seule là. J'ai dit, il vaut mieux, au lieu de rester là-bas avec elle, je viens ici me débrouiller. C'est pourquoi je me retrouve alors ici maintenant à... C'est pourquoi je me retrouve ici à Montréal.
Yo, my name is Paul Nakuo. I'm from Kenya. Well, my previous I was a researcher before I came, but I came through the U.S. and I've been living in Montreal for 3 years now, close to 3 years now. I arrived in Montreal, Quebec, on April 2018. Yeah. To be exact, because I remember it was my birthday, so it's 21st of April. And I was in the U.S. For quite a number of years, for 4 years. I took up, I was working at the University of Pennsylvania Museum. We had a research in Kenya together, and I came up to do some, to conclude the researches. But of course, already there were problems that I had started up there. So I chose to go to college there in the U.S. I came to the University of Maine. I got a scholarship to study political science in the U.S. And I had a reason for that, from medical to political science, because politics were changing so much and all that. And I felt I needed to understand, because all what my problem happened was quite political, but I wasn't doing political. I was a scientist. But when I went to administration, and having come from a minority tribe, the people in the majority tribe felt threatened, and then they started coming after me. So I wanted to study political science and understand. I got a scholarship just before Trump came in, before the government changed, and then I studied for 1 year with no problem. But when they came and the America First thing came, so my scholarship was withdrawn. At the moment you leave your country, it's very hard to go back. I started leaving my country before that when I came to the U.S. 2002. By that time, I was working with the Ministry of Health, and I was high-ranking in the government, and they didn't like that because I didn't come through a government sponsorship. So they thought, the officials there thought, maybe I was coming to collaborate with the government of the U.S. and all that. So from there, I was interdicted, sacked, and then from there, I started being monitored. I couldn't live in the country, and so many things happened. So I had to come back to the U.S., fortunately. So I came twice, and every time I go, it got even more worse. So this time, I decided I just have to have one life. I decided to stay in the U.S.
Pour demander l'asile au Canada, il y a différentes façons de le faire. Premièrement, ça peut se faire à des points d'entrée. Par exemple, un point d'entrée aérien. Là, on peut penser aux aéroports. Les personnes peuvent demander l'asile dès leur arrivée, par exemple, à Pierre-Elliott-Trudeau. Il y a aussi d'autres points d'entrée où les personnes peuvent faire des demandes d'asile. On peut penser, par exemple, à un point d'entrée maritime, donc des ports, ou encore à un point d'entrée terrestre. Il y a aussi une autre façon de demander l'asile, puis ça, c'est pour ceux et celles là, qui se trouvent déjà sur le territoire canadien. Puis ça serait de se présenter à un bureau interne d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Alors que pour les autres points d'entrée dont j'ai parlé, les personnes, bien souvent, vont demander l'asile dès leur arrivée. Donc, suite au dépôt de la demande d'asile auprès des différentes agences, tout dépendamment où la personne va avoir demandé l'asile, il va avoir une première analyse qui va être faite au niveau de l'admissibilité de la demande d'asile, et aussi au niveau de la recevabilité de la demande d'asile. Donc, suite au dépôt de la demande, il va y avoir ces examens-là qui vont être faits. Puis ensuite, la demande va être déférée à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Donc, une fois que la demande va être déférée à la CISR, qui est la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, la personne va devoir préparer son dossier afin de démontrer que sa vie est en danger ou qu'elle est à risque de persécution si jamais elle retournait dans son pays d'origine. Puis par la suite, la Commission de l'immigration va céduler une date d'audience où la personne va pouvoir aller présenter son dossier devant un commissaire. Donc, le commissaire va entendre la cause, puis par la suite, suite à l'analyse du dossier puis des éléments de preuve, il va rendre une décision sur l'octroi du statut de réfugié.
Je débarque ici le 8 novembre 2020 à Montréal. Tout
seul.
À l'aéroport, tout seul. Sans connaître personne au Canada, sans jamais être avant au Canada. Rien du tout. Tout simplement, je débarque comme ça.
Et puis,
je me suis montée en avion juste avec mon passeport français, sans visa, sans rien du tout. J'avais commencé à parler avec des gens dans l'avion. J'avais 7h30 de vol, à peu près ça. Je restais. Mais en fait, si vous voulez, j'étais très contente. J'ai dû sourire pendant tout le voyage. Je m'en foutais tellement que je connais personne. Je savais que là, maintenant, je suis libre, vraiment. La liberté, ça compte vraiment pour l'être humain. C'est avoir la liberté, pour moi, veut dire être bien dans sa peau. Donc, je m'en foutais que je connais personne, ou s'ils vont m'accepter, ou s'ils vont pas m'accepter. Mais je savais qu'à partir de ce moment, je suis libre. C'est tout ce que je savais et que j'avais vraiment pris le courage sur moi. Donc après, j'ai dû descendre à l'aéroport de Trudeau, ici à Montréal. Je suis tombée sur un agent le plus dur du monde. C'était quelqu'un que j'ai jamais vu dans ma vie. Mais pour moi, c'est une bonne chose parce que je sais comment réagir quand j'ai des gens durs devant moi. Donc ça me faisait pas peur du tout, c'était la contraire. Il m'a demandé « Qu'est-ce que tu viens faire au Canada ?» La première question que l'agent à la douane m'a demandé « Qu'est-ce que tu viens faire au Canada en plein coronavirus ?» Ok. Donc, j'ai dû répondre « Je viens étudier, je viens déménager, je viens travailler. » Vous savez ce qu'il m'a répondu ? Il m'a répondu « Est-ce que vous foutez de moi ?» J'ai dit « Non, absolument pas, je me fous pas de vous. Je vous dis la réalité, ce que je suis venue faire ici au Canada. » Donc là, il a commencé à être un petit peu méchant envers moi. Il voulait pas m'écouter. Il me disait, avec le premier avion, on va vous faire rentrer en France. Ma dernière réponse envers lui, c'était, faites ce que vous voulez, je rentre pas en France. Faites vraiment ce que vous voulez, moi, je rentre pas en France. Je lui ai dit, si vous voulez que je meure, que je crève en France, alors faites-moi rentrer. C'est ce que je lui ai dit. C'est là qu'il m'a regardé pendant 2 minutes dans les yeux. Et il a commencé à me dire, pourquoi ? Pourquoi vous dites ça ? Et c'est là que j'ai commencé à lui expliquer toute mon histoire depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, de tout ce qui m'est arrivé, la raison principale pourquoi j'ai fui la France. Parce que j'étais pas en sécurité, parce que j'avais un père agressif derrière mon dos, qui est malade mental. J'avais un copain que je devais faire le mariage dans 2 semaines avec quelqu'un que je l'aime pas, que j'étais obligée de faire ça. Donc j'ai dû lui expliquer toutes ces choses-là. Il voulait pas faire mon dossier d'asile. C'était vraiment quelqu'un qui, même si j'ai dû lui tout expliquer toutes ces choses, il a commencé à me dire « Ah, mais vous êtes pas un terroriste peut-être ?» Il a commencé à sortir des choses, n'importe quoi. Et c'est là que j'ai commencé à m'énerver pour de vrai. Je lui ai dit « Moi, je suis venue ici pour être protégée et vous m'insultez tant que terroriste ou je sais pas quoi. » Donc en ce cas-là, il a allé chercher mes valises, il a commencé à fouiller dans mes valises, il croyait que peut-être il y a une autre situation, que je dis pas la vérité. Mais dans une autre côté, je les comprendrais parce que c'est leur travail, c'est leur job, c'est des agents, ils ont droit de faire des recherches, ils ont droit de penser ce qu'ils veulent. Donc je les comprenais dans un côté, c'est un peu dur de croire une histoire comme ça aussi du jour au lendemain. Mais ça arrive. Parce que ça m'est arrivé, donc ça arrive.
I applied for asylum in the U.S., but the lawyer that I took was just, it took me like 4 years, and he was just asking money, and the case was being postponed and all that. So I decided to come over, and because of the treaty of you can apply for, I mean, the second country, you can go for a second country and apply for asylum. So I came to Canada, yes. It was very difficult, especially being in a state that is almost 99% white. So that you couldn't hide in any way. And then some rules were coming, and it reached a point that you could not even get into a bus because the bus driver will ask you for documents and all that, and it became so tough. So the other option, I couldn't go back to my country, of course, because I wasn't sure of my safety. So I decided to come over to Canada.
On est arrivé au mois de novembre 2018. Au Canada, moi, je ne savais pas différencier Québec-Canada. Quand je suis venue, au Canada. Quand je suis arrivée, on nous a bien accueillis à la frontière. On nous a conduits dans un centre. Tout a été bien. Mais au YMCA, on avait très froid. Dans notre chambre, c'était pas assez chauffé. C'était très froid. Après, on a eu des difficultés quand même à trouver un appartement. On a fait plus de environ 2 mois au centre. Et les enfants étaient très stressés parce qu'ils n'allaient pas à l'école. Ils voulaient aller à l'école. On n'avait pas d'adresse. Parce que si on n'a pas d'adresse, on ne peut pas trouver une place. Et après, plus tard, on a trouvé la maison, on est sorti du centre, on est arrivé chez nous. J'ai eu mon permis de travail, j'ai commencé à travailler.
J'étais en train de réfléchir à abandonner les enfants, venir tout seul, apporter les enfants, venir là. J'étais un peu difficile à prendre une décision pour venir. J'étais pas vraiment très chaud pour venir en courant, vous voyez là. Fallait bien voir. Il y avait mes petits, comment je vais faire pour... J'avais peur pour aussi pour mes petits, je ne sais pas. Ici, comment... je ne veux pas que d'autres enfants viennent frapper mes enfants. Presque à 6 mois de l'expiration de mon visa, il fallait soit je sorte, soit je ne viens plus. Alors je me suis dit, il faut sortir, il faut aller, puis on va voir. Là. J'ai acheté le billet, j'ai vendu la voiture, j'ai acheté le billet... j'ai prêté beaucoup d'argent, on m'avait prêté, parce que c'était très cher, là. Donc, voilà, j'ai payé qu'est-ce que je devais payer, puis j'ai mis tout, j'ai fait des procurations à ma femme, au cas où, on sait pas. Et je lui ai dit, bon, voilà, et ben, voilà, je vais partir, puis je vais voir. Donc, j'ai un ami. Donc, c'est le fils du professeur de mon école. C'était mon professeur qui est ici. Donc, il est venu me récupérer de l'aéroport. De Pierre Trudeau. Et donc, je suis resté là-bas. Et donc, voilà, donc j'étais là. Puis, comment je dois faire? Je ne comprenais rien. Personne ne pouvait m'orienter, absolument rien. Et là, j'avais comme ça le portable. Puis, j'ai commencé à voir les associations et tout. Puis, j'ai vu qu'il y avait des associations. Alors, je me suis approché des associations. Et puis, une association. Je leur ai parlé de ma situation. Ils m'ont dit, voilà, tu peux avoir un avocat du gouvernement, tu vas déposer, tu vas voir. Parce que mon frère commençait à m'envoyer de l'argent de l'Angleterre. Il m'envoyait à chaque fois, il m'envoyait de l'argent pour subvenir. Mais c'était trop pour lui. Lui aussi, il a une famille, là. Je veux pas que dépendre de lui, là. Et donc là, ils m'ont référé à l'AMEF, à l'association multiethnique de l'AMEF. Donc je suis tombé amoureux de cette association-là. Oh mon Dieu, mais incroyable, là. Ils m'ont aidé. Ils m'ont trouvé un avocat. Je suis allé voir l'avocat. Et puis l'avocat m'avait rempli toute mon histoire, là. Pour être accepté en tant que demandeur d'asile, parce que j'avais rien. J'étais comme touriste. Je suis venu comme touriste. Mais c'est tout à fait logique, j'aurais pas pu... Non, je viens en qualité de demandeur d'asile et tout. Ils vont pas m'accepter. Ils vont pas m'accepter. C'est ça, c'est malheureux. C'est même en Algérie, s'ils savent que je vais aller venir au Canada en tant que demandeur d'asile, vous pensez qu'ils allaient me laisser partir? Déjà comme ça en touriste, ils n'arrêtaient pas de voir mon passeport, de vérifier, de me regarder si c'est bien lui, si c'est pas lui, c'est. C'est incroyable, là. C'est pas facile de quitter l'Algérie, je vous le dis. On m'a donné le papier brun, je suis allé à l'aide sociale, on m'a donné une pension. Et puis, donc ça marchait très bien. Donc je pouvais subvenir largement à ma survie. Puis que quand je manquais d'argent, je m'en allais aux banques alimentaires. C'est ça, c'est ça. Il faut se débrouiller.
Comme j'ai expliqué un petit peu plus tôt, il y a différentes façons de demander l'asile. Il y a une des façons, dernièrement, qui a attiré un petit peu plus l'attention du grand public, c'est les traversées qui sont faites à la frontière canado-américaine, mais plus particulièrement les traversées irrégulières. Pourquoi certaines personnes traversent-elles la frontière de manière irrégulière? Bien, en fait, c'est parce qu'il existe une entente entre les États-Unis et le Canada, soit l'entente sur les tiers pays sûrs. Qu'est-ce que l'entente sur les tiers pays sûrs? En fait, c'est une entente qui existe depuis 2004 entre le Canada et les États-Unis. Puis, en fait, les deux pays se désignent mutuellement comme des pays sûrs pour les réfugiés et demandeurs d'asile, puis établissent le principe selon lequel les demandeurs d'asile devraient normalement demander la protection dans le premier pays sûr où ils arrivent. Donc, par exemple, si je suis un demandeur d'asile originaire d'Haïti, et que le premier pays dans lequel j'arrive est les États-Unis, techniquement, en vertu de l'entente sur les tiers pays sûrs, je dois déposer ma demande d'asile aux États-Unis, étant donné que c'est le premier pays sûr dans lequel j'ai mis les pieds. De par l'entente sur les tiers pays sûrs, les personnes qui auraient comme pays de destination le Canada ne sont pas en mesure de présenter une demande d'asile à un poste d'entrée terrestre officiel. Sinon, ils vont se faire refouler là, vers les États-Unis où ils sont supposés demander l'asile en vertu de cette entente-là. Donc, qu'est-ce qui arrive, en fait? C'est que les gens vont traverser la frontière irrégulière, de façon irrégulière, en vue de contourner cette entente sur les tiers pays sûrs. Un des endroits où les personnes traversent de façon irrégulière, bien, c'est le chemin Roxham, qui a été énormément médiatisé là, dans les dernières années. En fait, c'est un petit chemin de terre qui est situé juste à côté du poste frontalier de Saint-Bernard-de-la-Colle. Donc, les personnes vont emprunter ce chemin Roxham pour pouvoir contourner l'entente sur les tiers pays sûrs en traversant la frontière irrégulièrement pour ensuite aller se rapporter là, à l'Agence des services frontaliers en vue de faire une demande d'asile. Puis, l'Agence des services frontaliers va ensuite référer la demande à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, où la personne là, va pouvoir aller faire entendre sa cause devant un commissaire de la CISR. Plusieurs personnes vont utiliser le terme « illégal », donc ils ont traversé la frontière illégalement, mais je tiens vraiment à sensibiliser le public à la bonne terminologie à utiliser, qui est la terminologie « traversée irrégulière », parce qu'utiliser le terme « illégal » tend à criminaliser le geste qu'ils font, alors que dans les faits, là, ça s'inscrit selon les grands traités internationaux. En juillet dernier, la Cour fédérale avait invalidé l'entente sur les tiers pays sûrs pour des motifs de droit individuel. Ceci dit, le tribunal avait accordé au gouvernement canadien un sursis de 6 mois allant jusqu'à la mi-janvier pour son invalidation. Le gouvernement fédéral a fait appel de sa décision, puis tout récemment, en fait, en février 2021, la Cour fédérale a entendu les arguments du gouvernement canadien. À l'heure actuelle, on est toujours en attente des suites, à savoir si l'entente sur les tiers pays sûrs va être validée ou si elle va demeurer.
Ce balado a été réalisé grâce à la participation financière de Centraide dans le cadre du projet de l'Asile à l'Action du Centre social d'aide aux immigrants. Ne manquez pas le prochain épisode de Au-delà de Roxham la semaine prochaine pour en apprendre encore plus sur les enjeux et réalités vécues par les demandeurs d'asile au Québec. Merci pour votre écoute. À bientôt.
Je m'appelle Denise Otis, Je suis chef de bureau pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. En fait, je suis basée donc à Montréal et je travaille pour cette agence de l'ONU depuis environ une quinzaine d'années.
Un balado produit par le Centre social des immigrants avec la participation financière de Centraide.
Alors, dans le cadre de ce travail-là avec l'équipe de protection, je vais donc être appelée ici à Montréal à avoir des liens avec nos partenaires. Parce que dans le monde entier, l'agence, qui est vraiment une agence internationale, il faut que je le souligne, c'est une agence aussi intergouvernementale. C'est-à-dire qu'on est là pour soutenir les gouvernements dans leur mission, leur rôle de faire en sorte que les principes de droit international en matière de demande d'asile soient respectés. Donc, je vais être appelée ici au Québec à traiter avec nos partenaires régionaux de Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, de l'Agence des services frontaliers du Canada et évidemment notamment le ministère de l'Immigration, le fameux MIFI, donc ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, parce que c'est un partenaire important aussi en matière de protection. Alors, où en est l'évolution justement des droits des personnes qui demandent l'asile? Ben, je suis à quelque part bien placée pour en parler, puis je m'explique, c'est que avant d'arriver donc comme chef de bureau pour l'agence pour laquelle je travaille, j'étais donc avocate et je représentais des demandeurs d'asile. Et j'ai fait ça pendant au moins 15 ans. J'ai eu énormément de plaisir et aussi j'ai appris à vivre, si je puisse dire, parce que les personnes qui étaient dans mon bureau avaient tous et toutes des histoires très touchantes, bien sûr, mais des histoires vraiment, dans bien des cas, renversantes. Et maintenant que je suis du côté du Haut Commissariat, je peux quand même attester qu'il y a eu énormément de développement positif à ce niveau-là. Je vous donne un exemple bien concret. Et tout récemment, il y a des équipes qui ont été mises sur pied spécifiquement pour traiter des dossiers où il y a violence basée sur le genre. Et ça, c'est fondamental parce que ça implique une connaissance d'abord de ces types de situations-là et ça implique aussi d'avoir une sensibilité bien particulière par rapport à ce qui arrive. Il y a eu beaucoup de ratés dans le passé, dans certaines audiences de dossiers difficiles comme ça. Alors, il y a des choses bien concrètes qui ont été faites de façon à faire en sorte que les personnes puissent être mieux entendues dans des contextes meilleurs. C'est pas parfait, mais en fait, il y a aucun système, évidemment, de parfait, mais je peux en attester pour avoir été là depuis les débuts de ce tribunal-là, que ça s'est beaucoup amélioré.
En ma vision, lorsque je suis arrivé, oui, ça a beaucoup changé pour le début parce que jusqu'à date, ça a changé parce que je me dis que je suis dans un pays que je suis accepté comme LGBT, que je peux faire vivre ma vie comme je veux. Mais en matière de démarches ou des procédures de la demande d'asile ou en étant comme demande d'asile, des fois, c'est vrai qu'il y a de la frustration, il y a des stress. Il y a des pensées qui nous viennent en tête, des craintes. On se demande qu'est-ce qui va nous arriver demain ou qu'est-ce qu'on peut vraiment ou qu'est-ce qu'on va expérimenter demain parce qu'on peut pas vraiment prédire le futur. Donc, si on ne sait pas comment est-ce que on doit se préparer avant le jour de notre audience, quels documents fournir, quelle démarche faire. Et que même des fois les avocats qu'on a qui sont des avocats gouvernementaux, c'est pas tous qui vont vraiment nous donner ces informations pour nous dire ok tu vas chercher cette chose, tu vas te préparer comme ça. Et si on se prépare pas dès le début, à la fin ça va être vraiment stressant, surtout avec cette pandémie là. Là en ce moment pour mon dossier, je me suis rendu à l'étape à une dernière étape avant de pouvoir savoir quand est-ce que je vais avoir la date. qui est à l'attente d'une date d'audience. J'attends une nouvelle date d'audience.
Je pense que c'est important qu'on puisse relativiser ce qui arrive à nos frontières. Un des mythes principaux qu'on voit souvent, c'est d'être envahi. On est loin d'être envahi au Canada et les déplacements majeurs de personnes à coups de milliers, c'est dans les pays limitrophes. Ça n'arrivera jamais ici, ce sont les pays limitrophes et à 69 % ces pays limitrophes sont des pays en développement. Alors, si vous regardez les principaux pays là où il y a des déplacements de personnes, la Syrie, et j'ouvre une parenthèse, la Syrie, il y a 10 ans, était le pays qui en recevait le plus de réfugiés. La roue a tourné et maintenant, c'est un des pays qui d'où partent le plus de réfugiés. Là, la Syrie, bien sûr. L'Afghanistan, qui est un pays qui vais utiliser un terme horrible, mais qui produit des réfugiés, un terme comptable que je ne devrais pas utiliser ici. Mais ça reste. Et puis bon, je passe pour le reste. On parle du Myanmar, par exemple. Alors, tous les Rohingyas, ces apatrides qui sont retrouvés où? Ils sont retrouvés au Bangladesh, un des pays les plus pauvres au monde. Bon, alors, cette histoire de craindre qu'on va être envahi, ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. On est bien trop loin. Et, je le répète, les gens ne peuvent pas aller aussi loin que leur pays, les pays, et parfois doivent rester à l'intérieur de leur propre pays, comme dans une situation de réfugiés. Il y a à peu près... 80 millions de personnes qui sont déracinées à travers le monde, 25 millions sont des réfugiés, donc ils sont allés dans un autre pays pour chercher protection, et 45 et plus sont à l'intérieur, ne peuvent pas avoir eu la possibilité, n'ont pas eu la possibilité de quitter leur pays, et ils se trouvent comme ça déplacés à l'intérieur de leur propre pays, en étant persécutés, là, dans les mêmes conditions qu'un réfugié. Tout ceci pour dire que je pense que l'État est en mesure de bien gérer ses frontières, mais aussi de bien respecter ses obligations. Les provinces, parce que les provinces ont beaucoup un rôle à jouer important, le Québec quand même donne l'assistance financière, l'aide juridique, aussi l'hébergement temporaire au départ. Ce sont là des coûts, il faut le reconnaître, ce sont quand même des coûts qui parfois sont importants dépendamment du nombre, mais nous sommes encore dans des sociétés, j'allais dire, privilégiées par rapport aux autres pays qui reçoivent des millions de personnes réfugiées sur leur territoire. Et je pense que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une meilleure connaissance de ce phénomène-là, des gens qui demandent la protection, et qu'on puisse, si possible, rester fidèle à notre engagement.
Mais je vais librement, parce que la liberté, c'est important pour que les gens comprennent, et que peut-être si tout le monde essaye de s'exprimer de leur manière, de la liberté qu'ils ont dans leur esprit, qu'ils veulent avoir, je pense que ça peut aider quelqu'un, même si c'est pas tout le monde, mais ça commence toujours par quelque chose et ça finit par beaucoup.
Mais je dirais quand même que pour les nouveaux arrivants, la plupart des personnes des nouveaux arrivants, ils sont honnêtes parce que ils doivent être honnêtes parce que ils sont en train de chercher beaucoup de choses pour que, et le gouvernement même ait confiance en eux.
La grande majorité des gens qui arrivent ici ne veulent pas être au crochet de l'État, je vais le dire comme ça. Ils veulent contribuer, ils veulent travailler. Pourquoi? Parce qu'ils doivent aussi souvent payer des frais qui sont... souvent, on parlait tout à l'heure dans une conversation du Liban. Ben, au Liban, la situation médicale, en Iran, je vous nommerai aussi le Venezuela... Beaucoup de personnes qui arrivent ici et qui vont tâcher de travailler pour subvenir à ces besoins vont aussi subvenir aux besoins des gens qu'ils ont laissés derrière eux et qui sont dans des situations catastrophiques au niveau médical ou à d'autres niveaux. Alors, ils vont se saigner à blanc pour pouvoir soutenir les leurs tout en contribuant à la société qui chez qui ils essaient d'obtenir la protection. La possibilité pour ces gens-là de fuir s'est présentée, et souvent à fort coût. et souvent à fort prix, parce que on laisse derrière nous des gens, des mamans, des papas, des frères, des sœurs, des amoureux.
Je souhaite avoir un travail digne, vraiment un travail que ça soit dans les centres hospitaliers comme ménage, que ça soit dans les bureaux du gouvernement ou des magasins ou des supermarchés, que ça soit, donc je souhaite avoir vraiment un travail stable.
Donc, ce que vous souhaitez le plus, c'est de trouver un travail, que ça soit relativement bien selon votre condition de santé, pour pouvoir travailler, gagner votre vie.
C'est ça.
OK.
Parce que moi, ce que le social du Canada m'a fait vraiment, c'est difficile que tu trouves ça ailleurs, dans d'autres pays. Ils m'ont aidé, me donné l'aide sociale. Vraiment, je voulais sortir dans l'aide sociale pour qu'on aide aussi d'autres gens. Si j'ai encore la force à cet âge de travailler, ça ne sert à rien que je reste, je n'ai pas encore demandé l'aide sociale, pourtant on pouvait aussi aider d'autres gens avec. Et je travaille ailleurs. Je me bats pour travailler. C'est mon souhait là-bas. Et mon souhait encore, c'est que si je pouvais avoir ma résidence vraiment le plus tôt que possible, ça me ferait plaisir, vraiment.
Le Québec m'a ouvert des portes, donc tant que j'ai la possibilité d'avancer, d'évoluer, je ne vois pas pourquoi je quitterais. Donc je suis à l'Est, à Montréal, au Québec. Je continue à être là. Je garde espoir d'aller revoir ma famille.
Vraiment, c'est mon souhait le plus cher. J'aimerais avoir la résidence le plus tôt possible, juste aussi pour que mes enfants soient à l'école, ou qu'ils soient bien, vraiment, ils souhaitent aller étudier. Et chaque parent a toujours besoin que ses enfants aillent de l'avant. Donc c'est ça que je souhaite, avoir la résidence pour que mes enfants aillent à l'école.
Les conflits, les persécutions, les violences, les abus au niveau des droits fondamentaux ont tous une source. Et les sources, malheureusement, en tout cas les sources dont les gouvernements sont responsables, souvent ne sont pas adressées. On ne va pas examiner cette situation-là. Pendant la COVID, le secrétaire général des Nations Unies a demandé aux États cessez vos conflits là. Il y a quelque chose. On vous l'a demandé avant, mais on vous le demande encore plus parce qu'on est dans une situation catastrophique au niveau de la santé. Et ben bon, il n'a pas été écouté, ni non plus Monsieur Gandhi, qui est le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Alors, les persécutions, les violations et tout ça ont continué même en temps de COVID, et ce qui fait qu'il y a des gens qui essentiellement souffrent de ça, en ont souffert ou craignent d'en souffrir, parce qu'on peut aussi craindre une persécution future, pour différentes raisons, hein, que ce soit leur religion, leur race, leur groupe ethnique, leur opinion politique, celle qu'ils ont, mais celle qu'on pense qu'ils ont, parce qu'ils sont de la famille XYZ dans tel pays. Et c'est des gens aussi qui craignent d'être torturés, ou qui l'ont été. Et c'est des gens qui, pour des raisons qui ont trait à leur personne ou leur orientation, le fait d'être soumis en tant que femme à un mariage forcé, à des mutilations génitales, bon, et j'en passe, violence domestique, ne trouvent pas à l'intérieur de leur propre pays un soutien suffisant pour pouvoir les protéger, parce que ça, c'est un élément important. Et donc, ils n'ont aucune possibilité de pouvoir trouver une solution. Et certains parce qu'on est tous différents, vont pouvoir vouloir rester jusqu'à la fin. Certains vont quitter avant que ça arrive et certains vont quitter alors qu'ils ont souffert depuis longtemps dans leur corps. Alors, il y a toutes sortes de scénarios. Ça n'existe pas le plus petit parfait demandeur d'asile ou personne demandeur d'asile. Toutes les circonstances sont différentes, mais ce qui est commun, c'est cette atteinte aux droits fondamentaux et cette impossibilité d'être protégé.
Ok, je suis Monsieur Eric, je viens de l'Afrique. Moi, par exemple, j'ai vécu le Canada, je suis arrivé au Canada une fois, je suis venu pour les études. Après, je suis retourné au pays parce que j'aime mon pays, je suis retourné pour travailler. Et pendant que je travaille dans mon pays, subitement, la gestion gouvernementale, l'opposition et la guerre a commencé. Le pays n'allait pas bien, des visites des hommes armés, des perturbations tous les jours. On n'arrive pas bien dormir. Et bien, du coup, j'ai résolu être ailleurs pour que je puisse vraiment rester tranquille avec ma famille. Et c'est ainsi que le pays, le Canada, m'est venu à la tête, le Québec.
Mon nom est Monique et mon pays d'origine est la République démocratique du Congo. Je suis au Québec depuis novembre 2019 et mon histoire d'immigration commence depuis la Belgique.
Quelle année?
J'ai débarqué en Belgique en 2010. J'étais en Belgique, j'ai passé 7 ans dans ce pays et j'ai eu la grâce de faire mes études en soins infirmiers en Belgique et j'étais aussi demandeuse d'asile là-bas. Donc, pendant ma demande d'asile, j'ai eu l'opportunité d'étudier comme infirmière pendant 3 années. Une année après que j'ai commencé à travailler et que j'ai demandé à être régularisée, la Belgique me répond pour me dire, écoute, tu dois retourner chez toi au pays, on ne peut pas t'octroyer la résidence permanente, tu dois retourner chez toi au pays, demander un visa long séjour pour revenir en Belgique et travailler.
Je m'appelle Mohamed Barry, je viens de la Guinée-Conakry. Mais en bref, je suis là pour, au total, je peux dire 8 ans et quelques, mais j'ai fait 2 ans dans d'autres provinces. J'étais à Prince-Édouard pendant 2 ans, je suis revenu en 2019 pour une raison médicale. Donc, j'étais ici comme demandeur d'asile, beaucoup de gens, et puis je suis résident permanent maintenant. Mais ça a pris un long chemin pour arriver là.
Alors, mon prénom, c'est Loum Touriye, si vous voulez bien savoir, peut-être. C'est une origine albanaise. Je viens de Macédoine, si vous voulez, ex-Yougoslavie, Macédoine du Nord. Je suis d'origine albanaise parce qu'en Macédoine, il existe 2 origines, des Albanais et des Macédoniens. C'est ça. Alors, j'ai 21 ans. Ça fait 8 ans à peu près que j'ai vécu en France jusqu'à aujourd'hui, avant que j'arrive au Canada depuis 2 mois et demi. Donc, mes 14 ans, je les ai fêtés en France et avant, j'ai vécu en Macédoine du Nord. Et du coup, le jour que je suis arrivée en France, ça a tout basculé. Le temps que j'étais encore en Macédoine, on était encore des enfants, ça se passait tout bien, on était contents, il n'y avait rien de mal qui passait. Mais depuis qu'on est arrivé en France, ça a tout basculé.
Alors, plusieurs scénarios, mais encore une fois, difficulté de trouver protection. Et c'est pour ça que c'est important pour le HCR et pour plusieurs d'entre nous qui travaillons dans le même domaine que toutes ces lois, ces conventions demeurent, soient intactes, puissent être respectées, puissent continuer d'exister. Et c'est pour ça aussi qu'on fait souvent au HCR la différence entre des personnes qui sont dans la situation que je vous ai décrite et plus généralement tous ces différents types de migration. Parce que il faut faire, peut-être qu'on a tort, mais je pense que pour nous, c'est important qu'on fasse cette distinction-là pour qu'il y ait encore, à quelque part, quelqu'un qui puisse venir ici trouver la protection. Parce que malgré tout ce que j'ai dit jusqu'ici, il y en a quand même beaucoup qui trouvent la protection. 56% des demandes sont acceptées. Donc, ça donne la possibilité à ben du monde, quand même, de pouvoir commencer une nouvelle vie. Faut quand même reconnaître ça. Et grâce aussi au soutien d'organisations locales sur le terrain qui les soutiennent de façon fantastique et parfois au-delà de leur mandat, au-delà de leur capacité financière. Alors, bénévolat, etc., moi, je leur tire mon chapeau.
Ce balado a été réalisé grâce à la participation financière de Centraide dans le cadre du projet de l'Asile à l'Action du Centre social d'aide aux immigrants. Ne manquez pas le prochain épisode de Au-delà de Roxham la semaine prochaine pour en apprendre encore plus sur les enjeux et réalités vécues par les demandeurs d'asile au Québec. Merci pour votre écoute. À bientôt.
Say it, say it, say it. You're on my way, I'm on my way. قلبي غطايح تاك من جاري عيشت معاك غير كان بغي عيتي تصوني 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 انتي دا بغي واحدة اكوني تحتي معيوني كنتي محبوبي كنتي محبوبي وقل لك ساي 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 انتي بطريق وانا بطريق قلبي غطايح تاك من جاري عيشت معاك غير كان بغي في ده وكل واحد حطته ببلاصته وجا واحد جميل في الديت نسيت الماضي وتبحث بصورته صافي سديت طفيت البولا وقيش لقيني دابا اولا ماترياليست بغي وغي المولا ونزيد معاكي نو 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 كي صافي سيدي كل شي ودابا غادي نمشي وانت واحد ما يستاهلني انتي بطريق وانا بطريق البيضة طايح تم جاري حيت معك هنا كان ناري ساي ساي قول لك دابا غي باي باي كنتي غلطة في حياتي تعكدو بك لي كان باي اللي خيتي اللي خسرتي خسرتي واحد كان عطيك لوف كنتي بالنسبة لي انتي لو موند انتي لو موند نقول لك ساي 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 انتي الطريق وانا الطريق قلبي طايح تاك من جاري عيت معاك هنا كان ناري
Prison Radio Show est une émission radio avec des nouvelles pour les prisonnières et leurs alliés et familles. L'émission cherche à confronter l'invisibilité des prisons et la lutte des prisonnières en se concentrant sur les racines de l'incarcération, de la police et de la criminalisation. Nous sommes dédiés à des programmes qui collaborent directement avec des personnes actuellement incarcérées. Dans cet esprit, nous aimerions vous faire savoir qu'on a une ligne téléphonique pour les prisonnières et leurs amis et familles. Vous pouvez nous appeler Collecte de la prison de Bordeaux et de la prison Rivière-des-Prairies en composant le numéro 514-876-3748. Encore une fois, c'est 514-876-3748 pour les appels Collecte. On a aussi un numéro normal qui est 438-3378423. N'hésitez pas à appeler ce numéro et à nous laisser un message avec des nouvelles à partager sur l'émission ou un message audio pour vos proches à l'intérieur.
Good evening. It's 6 o'clock. You're listening to Upstage on CKUT 90.3 FM and at CKUT.ca, the show about theater on the radio, from drama to musicals to burlesque to comedy and everything in between, professional, student, and community productions in and around Montreal, this island also known as Jojage in Ganiagaha and Munuyang in Anishinaabe, where we spell theater with an R-E at the end. I'm your host, Sarah DeA, live in studio on Thursday, January 26, 2023. And what a snowy, cold couple of days it's been. Something like, at least this morning, 26 centimeters of snow had fallen on island in the past almost 24 hours now. It's currently minus 5 and it feels like minus 13, but the snow's going to wrap up for a little bit. So you have no excuse to head out and go see some live theater this weekend. On tonight's show, Finding Love, Seeking Revenge, Playing Games, and as you may have heard, based on the music we're playing, Sean Hughes. On tonight's show, my guests include Jimmy Blay, the artistic director at Geordie Theater. He has directed a play for kids. It's been touring schools. That show and another one are going to be part of the Geordie Theater Fest this weekend. Something to do with the kids and for adults as well. Tales about finding love and growing self-confidence. Then later on, the reason we are playing the Simple Minds Don't You Forget About Me is Hughesical the Musical, a musical odyssey through the movies of John Hughes. It is a fundraiser for the Siegel Center, a place I love very much. We'll speak with two of the people who've got their hands deep in this production coming next weekend. That'll be after 6:15. And Dawson students are putting on the Orestia February 1st to the 11th at the New Dome Theater. This is an adaptation, a fairly recent one, looking into, you got it, war, murder within families, revenge, all that good stuff. We'll speak with Jean Potvin, third year student. That means